Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue, merci d'être avec nous pour ce nouveau magazine de la moto sur le 106,6 de Radio Campus Lille ou www.campuslille.com. Au menu de cette émission, nous avons rendez-vous avec notre ami Christophe Tillemant. Christophe, bonjour.
Bonjour Lamiche, bonjour à tous.
Un sujet important, c'est la presse, parce que je sais que tu es correspondant, tu écris des piges hein, dans Motomag, hein, Motomagazine.
Voilà. Alors je ne suis pas un ancêtre.
Non, tu n'es pas un ancêtre.
Ça fait 12 ans, mais j'ai quand même vu des mutations. Mais je suis là tous les mois, je présente le sommaire. Traditionnellement, cette émission consacrée à un sujet hors cadre, on va dire, il se fait au mois de janvier. Bon, vous savez pour quelles raisons on n'a pas pu le faire. Donc on a mis les bouchées doubles, parce qu'on peut le dire, cette émission se fait dans un lieu délocalisé.
Hein, on dira pas un, où, hein. Un lieu motard, écoute, voilà, un local.
C'est Radio Pirate.
Radio Pirate, on arrive là.
Tout à fait. Et puis, il s'est trouvé qu'à la fin de la... Je charge les sujets, tu sais, hein, j'arrête pas de phosphorer. Il s'est trouvé qu'à la fin de la saison radiophonique, j'ai eu un flash.
Hein,
et oui, ça arrive.
Ça t'arrive. Ça,
voilà. Et pendant le confinement, je me suis rendu compte que parmi nos camarades de Kikinkou, on avait des perles. Des gens qui collectionnaient et qui avaient des ressources innombrables. Il y en a même qui ont des magazines d'avant leur naissance. Des collections complètes. Hein. Donc je me suis dit, je vais leur demander ce qu'ils font mercredi. Hein, et puis je vais les inviter, puis on va discuter. Et puis donc je vous ai sélectionné des champions.
Hein. J'irais même des champions du monde, de la collection.
Des champions, voilà. Alors ça tombe bien, on va parler de la presse. Hein. Donc je vais émailler, on va parler revue de moto, revue de journal, moto, journal, champion, revue, moto magazine. Donc je vous ai sorti vraiment des champions dans leur domaine. Nico, qu'on ne me présente plus, hein, si vous écoutez Radio Campus tous les dimanches.
Salut Christophe, salut Amiche.
Nico, spécialiste sport moto. Qui est toujours là pour
spécialiste,
assurer.
J'aime bien tout ça et j'aime bien tout ça depuis toujours.
Et il prépare un amateur de sport, moto.
Il prépare ses sujets. Je peux vous en témoigner. Un autre Nicolas. Alors c'est pas la première fois que tu viens à l'antenne.
Non, c'est pas la première fois.
Mais un nouveau Kikinkou et lui, c'est aussi un champion dans son domaine. Il vous expliquera tout à l'heure comment il est arrivé à constituer toutes les collections qu'il possède, même des titres qui ont été sortis. Une fois ou deux fois.
J'ai pas mal de collections moto, de la presse moto, et je précise que je suis presque abonné à tout ce qui sort en presse moto, même actuellement. Je ne vais pas citer parce que ce serait trop long, mais je lis toute la presse motocycliste, encore aujourd'hui.
Tout à fait, merci.
Et c'est mon facteur qui est content.
Et donc, pour terminer le plateau ici en studio, Guy, est-ce qu'il faut encore le présenter, spécialiste tout-terrain, motocross? En plus, qui a une longue carrière de correspondant. Hein, donc, tu nous diras, tu nous expliqueras. Et puis, alors, c'est pareil, il a une collection. Je vous raconterai après avec lui ce qu'il en fait et comment il la diffuse. Et puis, dernier invité, en guest star, je pourrais dire. Alors, c'est quelqu'un qu'on connaît bien parce que son cœur est au nord. Hein, Pierre Orluc, donc directeur de la rédaction de Moto Magazine. Bonjour, Pierre.
Bonjour à tous.
Ça nous fait plaisir. On a toujours un doute, tu sais, quand on dit bonjour, est-ce que l'interlocuteur sera...
Alors, il faut expliquer quand même aux auditeurs. Pierre n'est pas avec nous dans le studio, il est à l'extérieur, et c'est la première fois avec notre nouvelle configuration qu'on a un invité au téléphone. Donc, pardonnez-nous.
Voilà, donc il va falloir que je me tienne bien.
Voilà, si on a quelques... On n'aura pas de soucis techniques, hein, parce qu'évidemment, on a Laurent qui est aux manettes, et donc on n'a pas de soucis pour ça. Et donc, Pierre, on va passer un bon bout de temps avec toi, parce que c'est aussi la mémoire de la presse depuis le temps que tu écris. Hein, parce que ceux qui sont sur le plateau te connaissent de longue date avec Moto Journal, mais on a eu l'occasion de préparer l'émission.
J'ai l'impression d'être un vieux con, hein, pardonnez-moi l'expression.
Nous aussi.
Quand on dit une vieille gloire de la presse. Mais non, c'est vrai que ça fait plus de 30 ans que je travaille dans la presse moto notamment. Et donc ça m'a permis d'avoir un peu de recul par rapport à tout ça. Et puis, simplement d'avoir aussi pas mal d'expériences diverses et variées, et dans certains titres, mais aussi dans ce qu'on y fait. Donc j'ai fait à peu près tout ce qui pouvait être fait par les journalistes moto dans la presse moto. Donc voilà, j'ai aussi une vision d'ensemble des essais, aux reportages, aux enquêtes, aux interviews. Oui, je devrais pouvoir vous raconter quelques histoires.
Voilà, donc pour cadrer un peu l'heure et demie ou les deux heures qu'on va passer ensemble, on va parler bien sûr de la presse moto, mais on va surtout parler et éclairer nos auditeurs sur comment elle a évolué, quelles sont les périodes aussi de la vie des motards, les nouvelles tendances aujourd'hui, l'apparition d'Internet évidemment, les youtubeurs, les réseaux sociaux, etc. Et comment vous vous êtes adapté dans les différents journaux et surtout l'évolution des revues avec ici donc nos lecteurs assidus et qui ont des collections remarquables.
Eh bien, parfait. Très bien. Je suis prêt à répondre à toutes vos questions.
Bah écoute, Pierre, on passe un morceau de musique. Surtout, tu ne raccroches pas et on se retrouve juste après. Le magazine de la moto sur campus tous les dimanches de 11h à 12h30 et plus si affinité. On parle de la presse moto, Christophe, aujourd'hui, avec un secteur en difficulté aussi. Hein.
Oui, oui, alors tout à fait. Donc, on a organisé, si vous voulez, la présentation de notre sujet. D'abord, on va faire l'historique. Hein, donc, j'ai confié à Nico le soin de nous faire un petit rappel, parce que ça tombe bien, tu roules en Guzzi et c'est le centenaire de Moto Guzzi. Mais la presse moto, elle existait bien avant Moto Guzzi, hein, Nico, en Europe.
Oui, à peu près à la même époque. Hein. En fait, au commencement, en France, le pionnier, c'était Motorevue. Et c'est incroyable. La première parution, elle date de 1913. Voilà. 1913. Donc, c'est vraiment le pionnier de la presse moto française. Et t'imagines les essais d'entre-tubes avec avance manuelle, vitesse à main, cadre rigide sur les pavés glissants. C'était vraiment les pionniers. Et la publication ne sera seulement interrompue que pendant les deux guerres mondiales. Donc ça a été longtemps le seul hebdomadaire français consacré exclusivement au motocyclisme. On se souvient tous de sa couverture toute rouge, avec une photo dans le rond central.
Tu les possèdes, ces numéros ?
Alors, je ne les ai pas tous, mais...
Le numéro 1, c'est introuvable.
Oui, il n'était pas en couleur, d'ailleurs.
C'est pas facile à trouver, le numéro 1.
Mais après, on trouve des scans sur Internet.
Ouais. Ouais. Mais il y a des gens qui ont le numéro 1, mais c'est très très rare. Ouais. À savoir aussi qu'en Angleterre, quand il y avait un essai moto, il fallait un cheval pour ouvrir la route. Donc ça remonte avant 1913. Donc en général, dans certaines revues, il y a un cheval devant la moto parce qu'il fallait ouvrir la route et c'était un cheval qui ouvrait la route.
Allons bon. Et donc en 1972 arrive un concurrent, Moto Journal. Alors Moto Journal, il est né sur les cendres de Automoto. C'est une revue qui s'appelait Automoto, puis après Automoto Journal, qui n'a tenu qu'un an. Hein, et Moto Journal arrive. Et là, en 1972, la France, c'est un pays envahi de cyclomoteurs. Mais le renouveau de la moto est pourtant en marche. La plupart des constructeurs européens sont en perte de vitesse ou alors ont disparu. Les Japonais, jusqu'ici, s'étaient cantonnés dans les petites cylindrées, mais ils ont provoqué un séisme en sortant la 750 Four. Une moto belle, moderne, puissante, propre, fiable et facile. Alors, à cette époque... Moi, j'étais préadolescent boutonneux, et après avoir collé toutes les images d'un motoparade, c'était l'ancêtre des albums Panini, je découvre mon premier motojournal. Et ce jour-là, ça a changé ma vie. Le jeudi est devenu, et pour des années, le meilleur jour de la semaine. Ça te parle, Nico ?
Tu allais acheter ton motojournal à la librairie.
Le jeudi, on allait chercher motojournal.
J'étais tout excité le jeudi.
Les grands prix, on le lisait pendant des jours et des jours.
Et ça coûtait bien motojournal à l'époque.
Ça coûtait pas cher.
Pas cher.
Ça coûtait.
On était adolescent, on n'avait pas beaucoup de sous.
Bah non.
Ouais. 77. Enfin moi 77 motojournal et c'est là 100XS Yamaha 78. Que de souvenirs,
Moi les premiers c'était en 72.
Alors,
j'avais 12
ans. Je peux demander, Pierre, dans les années 70, t'avais
là.
T'étais pas né. Non, ouais, tu vas pas nous faire croire ça.
Non, en fait, moi je suis né en 1964. Donc, quand Motojournal. Alors, je vais faire une petite rectification. Motojournal n'est pas apparu en 72. Le premier 71. Numéro de Motojournal en tant que Motojournal titre de ce nom-là, c'est fin 71. Voilà, avant, effectivement, vous l'avez rappelé, il y a eu Automoto, il y a eu Automotojournal et Motojournal le premier. Je crois que c'est en décembre 71, autant que je
quasiment 72. Hein.
Quasiment 72. Mais bon, les choses, quand on est dans la presse, on a normalement la précision. Donc voilà,
c'est aussi moment-là que Motorevue passe dans est racheté par le groupe La Rivière.
Non, c'est pas si simple que ça.
Motorevue.
Non, mais ça, c'est 100 ans après, ça.
Faut arrêter de. Non.
Et donc, mais bon, alors. Si vous voulez que je vous raconte un tout petit peu le en fait, moi à l'époque, j'étais en 1971, j'ai 7 ans. Donc à l'époque, je commence à m'intéresser à la moto parce que j'ai un demi-frère qui fait déjà de la moto et ainsi de suite. Et je n'ai eu de cesse de faire de la moto. Mais je m'y intéresserai effectivement, de fait, à acheter mes premiers journaux en 79. Et moi, j'ai commencé par la presse tout-terrain, puisqu'à l'époque, j'achetais Moto Verte. Voilà. Mais je savais, bien évidemment, qu'existait Moto Revue, vous l'avez dit, qui est née en 1913, qui, au passage, était le premier hebdomadaire français consacré à la moto, mais aussi, si je crois bien, le premier hebdomadaire tout court, ou un des premiers hebdomadaires, toutes presses confondues, en France. Hein, donc, voilà. D'où l'importance de Moto Revue encore aujourd'hui. Et donc, il y avait Moto Journal, il y avait Moto Revue, mais tout de suite, Moto Journal, quand il est arrivé sur le marché, a créé un nouveau ton, une nouvelle façon de voir la presse moto, avec une équipe qui était complètement différente de ce qui pouvait se voir ailleurs. Et donc, je pense que c'est ce qui a fait aussi que très vite, Moto Journal a pris le pas sur pas mal d'autres titres de presse.
Exactement, c'est ce que j'allais dire. Oui, en fait, moi, je découvrais une qualité d'écriture qui était jubilatoire. Hein. Les motos avaient une âme, on cherchait à la comprendre. On vivait les courses intensément dans les comptes rendus. Moto Journal mettait des mots sur l'ambiance motarde, développait notre esprit critique, le tout agrémenté de l'humour des dessins de Jeff, sans oublier les dialogues avec les lecteurs, puisqu'on avait Magipus, les essais lecteurs, le courrier, les trucs et astuces, et même de la poésie avec Nuages Blancs. Hein. Et donc cette revue transpirait la passion. Aussi, ben, je dirais jamais assez merci à Pierre Barret, donc, qui venait d'Express et qui a créé Moto Journal, à Guido Bettiol, à qui on doit...
Le gros mono.
Voilà, prof gros mono. Donc je pense qu'il y a beaucoup de 500 XT qui ont été vendus en France grâce à lui. Jacques Bussilet, une très belle plume. François-Marie Dumas, Christian Lacombe, Jean-Pierre Fresquet pour le tout-terrain. Fred Tronduc pour
la carte postale
au bout du monde. Il y avait Fenouille aussi comme aventurier. Hein, il y avait Jean-François Vivant, le dessinateur. Et puis, bon, il y en avait eu plein après. Hein. Pierre-Marie Poli, le regretté, là, lui aussi nous a fait rêver. Et donc, j'avais un plaisir de lecture étonnant. Je redécouvrais le plaisir de lire grâce à Moto Journal. Je trouve que ce journal nous tirait par le haut, nous donner envie de lire en plus de la matière qui nous plaisait, qui était la moto. À côté, Moto Revue, ça paraissait bien académique. Moi, j'ai trouvé que l'esprit de Moto Journal avait ringardisé Moto Revue et je lisais pas du tout. Moto Revue, il y avait de l'information, mais c'est de l'information. C'était pas, il n'y avait pas l'âme que pouvait avoir Moto Journal.
Ah, c'était Moto Journal, c'était surtout 68 arts, je pense, et puis un peu un vent de liberté, et puis une famille aussi, je pense. Une famille d'essayeurs moto, de journalistes. Vraiment, ça avait un esprit un peu famille.
Oui, Pierre, tu veux compléter ?
Je pense qu'effectivement, le côté famille était excessivement important, puisque moi, j'ai travaillé quasiment 30 ans à Moto Journal, donc je peux vous en parler en connaissance de cause. Moi, j'y suis arrivé en 89, fin 89, début 90. À l'époque, et en fait c'était vraiment, moi je suis tombé dans une famille, et ça je pense que c'est ce qui a fait la différence avec les autres titres de presse, notamment Moto Revue, mais c'est pas simple aussi pour Moto Revue, parce que vous imaginez, en 71, ça fait déjà quasiment 60 ans que Moto Revue existe, donc c'est une institution, voilà, un journal effectivement sérieux, compétent, qui donne de la bonne information, mais qui manquait sans doute à l'époque un peu de peps. Et Moto Journal arrive tout d'un coup avec une équipe, vous avez raison de le dire, on est en plein post-année 68, donc la France, j'étais tout petit, mais bon, j'ai lu plein de choses là-dessus, donc la France est en train de bouger énormément, d'exploser de tous les côtés. On est, pour revenir à la moto, on est aussi sur un phénomène important qu'on a tout petit peu évoqué tout à l'heure, qui est l'explosion de l'arrivée des constructeurs japonais en France. Hein, c'est grâce à eux que le marché va véritablement exploser à partir du début des années 70. Je vous rappelle, la Honda CB750 Four, elle arrive en 69, donc ça va être vraiment le marqueur fort. Donc tout ça se conjugue pour faire de Moto Journal quelque chose qui tranche complètement avec le paysage. Et pour parler de famille, ce qui a toujours fait la force de Moto Journal, et je pense, même si je n'y suis plus aujourd'hui, donc je ne veux pas me substituer à ce qui se passe aujourd'hui, mais je pense que c'est ce qui a toujours fait la force de Moto Journal, c'est ce côté familial, c'est ce côté relation avec les lecteurs, et voilà, les choses, surtout quelque chose qui est très important et que moi j'ai vécu et que j'ai souvent entendu répéter, voire tout le temps, c'est qu'il fallait travailler sérieusement, mais sans se prendre au sérieux. Et ça, c'est, je pense, capital, notamment quand de la moto. Ah oui. Quand on fait de la moto, qui est quand même quelque chose... Mmh. Bon, bah, on ne s'emmerde pas sur une moto, ou alors il ne faut pas en faire. Ouais. Mais voilà, donc, je pense que c'était la force de Moto Journal, tout
Pierre,
ça.
Pierre, nous, étant lecteurs de Moto Journal, dans bien des années plus tard, parce qu'en 78, j'avais pas le permis moto. Nous, on cherchait après les journalistes de Motojournal. Quand on allait aux 24 heures du Mans, on cherchait toi, on cherchait ses bio. Vous y étiez un peu quand même... on va dire des vedettes de la presse, quoi. Pour les nous, stars. Quand on vous croisait, moi je vous ai croisé une fois toute une équipe de Motojournal en pleine nuit sur l'autoroute, j'étais content, quoi. Je veux dire, vous étiez un peu nos modèles, quoi, en quelque sorte.
Oui, oui. Alors c'était surtout parce que je pense que tout simplement, à Motojournal, on était absolument des passionnés, des vrais passionnés de moto, hein, absolument. Et donc, c'était notre vie au quotidien en permanence. Moi, aujourd'hui, ça fait 37 ans ou 38 ans que j'ai mon permis. Je ne fais que de la moto. J'ai bien sûr mon permis voiture et tout ça, mais je continue à faire 30 ou 40 000 km de moto par an. Et à l'époque, déjà, c'était ça. Donc, en plus, avec des moments forts, avec des amitiés qui se sont créées à l'intérieur, avec des personnalités excessivement différentes, c'était pas toujours rose. On s'est engueulé souvent, il y avait le ton monté, certains avaient la tête près du bonnet, comme on dit, plus que d'autres. Mais ce qui comptait avant tout, c'est faire le journal et surtout partager cette passion qu'on avait entre nous. Et Motojournal a toujours été une bande de potes, et je pense que c'est véritablement le secret de sa réussite, mais aussi le secret de sa proximité avec les lecteurs. Et un signe tout bête, c'est que on a toujours dit aux gens qui nous appelaient, qui nous envoyaient des mails plus tard, mais au départ qui nous appelaient ou qui nous écrivaient, n'hésitez pas à passer au journal, n'hésitez pas, si un jour vous passez sur la région parisienne et tout, bah écoutez, poussez la porte, vous verrez bien, il y aura peut-être quelqu'un ou pas, parce qu'on est en train de travailler, on est peut-être à l'extérieur, mais si on est là, on vous accueille, et puis voilà, on boira un coup, vous visiterez les locaux, et ainsi de suite. Donc il y a eu toujours cette proximité qui était excessivement importante, et qui chez Motojournal n'a jamais été feinte, hein. C'est vraiment quelque chose qui était ancré au fond de chacun des journalistes de Motojournal.
Oui, Pierre, on va faire
une petite pause musicale, on reprendra effectivement ce sujet, parce que c'est effectivement, on est au cœur d'une époque, hein, où la pratique de la moto, dans les années 70, des gros rouleurs. Aujourd'hui, les gens roulent beaucoup moins qu'à cette époque-là. Et donc, on reprendra, et je vous parlerai justement d'un article que Philippe Guillaume a consacré justement au titre Disparu, mais surtout par rapport à cette époque et dans le courrier des lecteurs, où on a vraiment, ce que tu disais Nicolas, une recherche de lecteurs qui vont vers les journalistes qui sont des motards avérés et qui ont aussi cette culture, je dirais, de rapprochement par tout ce qu'ils vivent et tout ce qu'ils décrivent.
Into that night when I got there, I said, yeah, people, they was really having a ball. Yes, I know. Forget you, Lord. Laying down, I heard Mama and Papa talking. I heard Papa tell Mama, let that boy boogie woogie. Is in him?
and it got to come out. And I felt so good. Went on Boogie just the same.
Magazine de la moto sur Campus tous les dimanches à partir de 11h. Christophe, aujourd'hui on parle papier. Alors, ça nous change les écrans.
Pas que papier, on parle de la presse moto.
La presse papier, oui, la presse moto.
Oui, oui, la presse moto, mais la presse, oui. Elle passe aussi par Internet, on va y arriver.
Oui, mais...
Alors là on
est dans les années 70, alors, 80, est... et donc oui. Là, alors, on parle de ce qu'on pouvait découvrir, parce qu'effectivement, il n'y avait pas Internet à cette époque-là. On ne pouvait pas connaître les résultats des courses.
On parle des années 70, on a des auditeurs qui découvrent, hein, parce que forcément, c'est une autre époque aujourd'hui, ce qu'on a à lire. C'est différent. Et on était justement avec Pierre Orluc, donc directeur de la rédaction de Moto Magazine, ancien de Moto Journal, qui nous expliquait et qui partageait avec Nicolas le rapprochement qu'il y avait entre les lecteurs dans les sujets qu'ils proposaient et les journalistes. Mais je suis épaté quand même, 50 ans après, tous les noms de ces journalistes des années 70, on a l'impression que c'était des potes, quoi. Hein, Nicolas ?
Bah, disons qu'on suivait leur récit tous les semaines, Eric Maurice, Sebio, Papy Lacombe et bien d'autres. Quoi. C'était tout est intéressant. Nous, on a vu Sebio au Mans gagner. Ce qui paraît, est-ce que c'est vrai qu'il s'était rendu avec sa moto aux 24 heures du Mans ?
Alors... Ah bah c'est pas vrai, c'est non seulement pas vrai, mais il y allait régulièrement aux 24 heures du Mans comme ça. Et en fait, moi j'étais rentré, je tentais de rentrer avec Bertrand Sebilo parce que on pouvait pas le suivre, hein, Bertrand, c'était pas possible. Mais peu importe, je sais que une année, eh bien en rentrant des 24 heures du Mans pour rentrer chez lui en région parisienne, eh bien il avait gagné les 24 heures du Mans cette année-là sur la Kawasaki officielle et il était reparti avec. Il était reparti avec son ZX12R, je crois, ou quelque
chose
comme ça.
Avec la coupe derrière.
Et avec la coupe sanglée sur le porte-bagages. Mais c'est vrai, hein, moi je l'ai vu, sanglée sur le porte-bagages avec les sandaux. Et il s'est arrêté pour faire le plein, comme beaucoup de motards qui oubliaient de faire le plein avant de partir du Mans. Donc il se retrouvait en panne d'essence ou quasiment à 50 km de Paris. Et il s'est retrouvé avec 150 motards qui faisaient la queue en Randonnion, la dernière station avant Paris. Avec sa coupe scotchée sur l'arrière de la selle, et je me souviens très bien, les gens étaient hallucinés, en fait. C'est une évidence. Et en fait, il venait de terminer les 24 heures, il avait gagné les 24 heures avec l'équipe Kawa, et il rentrait à Paris avec sa moto, comme n'importe quel motard, comme nous, et il faisait le plein, et en toute simplicité, donc il a taillé le bout de gras en attendant de faire le plein. Voilà, c'était Bertrand. Et au-delà de Bertrand, c'était véritablement la signature de Moto Journal.
Et je Bertrand était un personnage précis. Incroyable. C'est en 98, c'est ça?
Oui, c'est dans ces eaux-là.
Alors, justement, on parle de Moto Journal. Donc, Nico, tu nous disais...
On était encore dans les années 70. Et dans les années 70, à l'Aspin Moto Journal, on assiste à ce moment-là, dans les années 70, à un foisonnement de nouvelles revues. Donc, il y a, par exemple, Motocyclisme, qui était une revue mensuelle, haut de gamme, avec des essais très détaillés. Hein. On avait le démontage carrément du moteur, des articles très techniques très fouillés. Il y avait Motorama, qui était un mensuel éphémère, mais qui avait également des essais très détaillés, hein, plus de 10 pages par essai, on n'a plus ça maintenant. Il y avait Champion, qui était moitié auto, moitié moto, et il y avait souvent Jean-Pierre Beltoise, comme essayeur d'ailleurs. Il y avait La Moto et le nouveau La Moto, un mensuel généraliste. Il y avait Les Motards, éphémère et très orienté Continental Circus. Il y avait La Revue des Motards, qui était sous-titrée La Revue dans la course. Il y avait Moto Touring, c'était la revue des routards des années 70, avec des essais très longue durée, hein, sur plus de 20 000 km, et puis de nombreux récits de voyage. Et après, il y avait le monde de la moto, donc la revue écrite par ses lecteurs, qui était relais des Chevaliers de la Route, et qui va donner naissance ensuite au Journal des Motards. Et aussi, il y avait des atypiques. Alors, les années 70, il y a des trucs un petit peu surréalistes. Il y avait Culbuteur, qui était un peu un magazine moto, mais satirique, avec tendance US, avec des choppers, des bikers, des femmes à poil.
Très dur à trouver, en plus.
Il y avait Kick, qui était composé principalement de posters et d'autocollants. C'était pour les gamins.
Les posters, oui, parce que ça, ça n'existe plus, mais... Ouais. combien de posters se sont retrouvés dans les chambres de...
Des gamins, c'était la grande époque des posters.
Il y avait Motoscopie, Motoflash.
Oui, alors c'est après Motoflash, oui. Ouais. Alors il y avait Plein Pot, c'était une revue BD motarde qui était beaucoup trop en avant sur son temps, quand on connaît le succès de Joe Bartim ensuite, hein, mais ça n'a pas connu de succès, mais c'était une belle idée. Et donc ben, la jeunesse de post-68arde revendiquait son besoin de liberté, de plaisir, et la moto, les copains, les concentres, les voyages, en fait, l'avenir se présentait radieux. Et puis.
Bah, je pense que. Oui, pardon.
Vas-y, Pierre.
Non, je pense en fait tout simplement l'énumération, elle a rien d'étonnant en tant que telle, au sens. C'est normal, effectivement, qu'à cette époque, tu viens de le dire, la jeunesse 68arde a envie d'exploser, de faire des tas de choses qui lui étaient interdites auparavant. Il n'y a rien d'étonnant, je vous disais tout à l'heure, l'explosion du marché, plus cette explosion humaine-là, il n'y a rien d'étonnant à ce que les titres moto se créent. Donc c'est effectivement dans ce moment-là qu'on va voir apparaître énormément de titres moto qui vont avoir une existence plus ou moins longue. Hein. Certains sont, on l'a dit tout à l'heure, à un exemplaire, voilà. Mais ça correspondait à un besoin. Chacun pouvait, d'une certaine manière, créer quasiment son titre en fonction de ses affinités particulières avec telle ou telle marque de moto ou tel type de moto. Donc ça n'a rien d'étonnant. Et les choses, on y viendra, je pense, tout à l'heure, mais les choses se sont régulées naturellement dans les années 80 et dans les années 90. Mais voilà. Dans les années 70, c'est effectivement l'explosion de tous ces titres-là, qui est d'une certaine manière totalement normale par rapport au fond de sauce historique et au fait que le marché moto en lui-même est en train d'exploser.
Voilà. Et en 1980, c'était Giscard à la barre. Et il y avait Giscard, il avait un délégué à la sécurité routière, Girondeau. Hein, souviens de ça, la Miche.
Girondeau. Oui. Ouais.
Et ils ont mis le feu aux poudres, en fait. D'abord, il y avait les tarifs d'assurance qui explosaient, parce que forcément, plus de motards, donc plus d'accidentologie. Et les assureurs ne connaissaient pas bien la moto, donc les tarifs n'étaient pas en adéquation avec les risques. Et puis, là-dessus, Giscard réforme le permis avec Girondeau pour le rendre plus cher, plus difficile. Et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, la vignette pour les 750 et plus. Et alors, le monde motard s'est fédéré. Alors, aussitôt, on s'est retrouvés tous sur notre première manif moto. Hein, et il y en aura d'autres. Et partout, en France, des antennes FFMC qui éclosaient de tous les côtés.
Rajouter, hein. C'est dans Moto au Journal que j'ai vu que des motards parisiens s'étaient rassemblés dans un bistrot et avaient décidé de monter un fonds commun, de récupérer, alors je ne sais plus combien, la somme d'argent.
280 francs.
Ouais, alors c'est des 280 francs
pour créer la mutuelle
des motards. Et c'est dans Moto au Journal que j'ai appris la nouvelle.
Voilà. Donc le mouvement, il va donner naissance à la mutuelle en 83, au pavé dans la mare. Et le pavé dans la mare, il est réalisé par une équipe mixte de professionnels et d'essayeurs bénévoles. Et c'est ce qui deviendra Moto Magazine dans les années 90. Et cette revue, ça sera une bouffée d'oxygène. Parce que parallèlement, les revues commerciales, elles ont évolué. Elles ont besoin de la pub. Et les essais, ils en pâtissent un peu. Le ton est de plus en plus consensuel. On croirait trop souvent lire un dossier de presse. Et pourtant, il y aura de belles tentatives. Il y a Motoflash, il y a eu Moto 1 et Moto 2. Mais dans le pavé et puis Motomag, on retrouve des valeurs de solidarité motarde et d'indépendance vis-à-vis des constructeurs. Des tests d'accessoires en réel. C'est par exemple ce qui a permis de bousculer l'offre des antivols. Hein. C'est Motomag hein, qui a réussi à tester les antivols en réel. Et du coup, les antivols n'ont plus du tout été les mêmes ensuite. Hein.
Oui, et ce qu'on peut compléter, Nico, c'est que Motomag le faisait avec les consommateurs. C'est-à-dire
Exactement.
Que les tests, et Pierre, tu peux
en vrai.
Confirmer, effectivement, les essais se faisaient avec des lecteurs qui venaient essayer les machines avec les essayeurs.
Voilà, et les essais, ils parlaient des sensations ressenties plutôt que du dixième du 400 mètres arrêté. Et on retrouvait donc le plaisir de lecture avec l'arrivée du pavé et de Moto Magazine.
Alors, si je peux me permettre de compléter ça, effectivement, Moto Magazine, donc c'est une émanation, enfin c'est le pavé qui s'est transformé en Moto Magazine, qui a été une émanation de la Mutuelle des Motards, qui
d'abord était
le journal de la Mutuelle, qui n'était pas d'ailleurs en kiosque, hein, qui est arrivé beaucoup plus tard en kiosque, qui est arrivé une dizaine d'années en kiosque plus tard, je crois en 1993. Mais c'est vrai que c'était autre chose. Hein. Là, il y avait aussi derrière le mouvement associatif de la FFMC. Donc c'est pas du tout la même forme de création. D'un côté, on avait des journaux qui avaient été créés, je dirais assez classiquement, par exemple Moto Journal par Pierre Barret, qui était un patron de presse par ailleurs, même avec des gens passionnés et tout, mais c'était une création comme ça. Là, on était dans le domaine beaucoup plus associatif, donc avec des valeurs qui n'étaient pas obligatoirement toujours les mêmes, et en tout cas une approche des choses qui était différente. Et c'est vrai que tout de suite, Le Pavé et après Moto Magazine ont tout de suite eu des spécificités particulières, donc des spécificités, notamment effectivement la défense du motard, avec tout ce que vous avez cité tout à l'heure, les histoires de vignettes et plein d'autres choses qu'on connaît depuis, et puis aussi ce rapport fort avec le produit, les essais des produits qui sont excessivement importants, parce que il y a la moto d'un côté, mais il y a aussi comment on s'équipe, comment on s'habille, les casques, ce genre de choses. Et très vite, Moto Magazine avec ses lecteurs et avec des bénévoles a pu mettre en place ce genre de choses. Et je voudrais quand même préciser quelque chose, je suis pas tout à fait d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure sur le fait que la presse est devenue parce qu'elle était commerciale avec de la pub et ainsi de suite. Je suis pas tout à fait d'accord, je suis bien placé pour vous en parler. Jamais, je dis bien jamais, et j'affirme clairement, en 30 ans, je ne me suis fait imposer quoi que ce soit par qui que ce soit au niveau de la publicité de Motojournal. Et je peux vous dire, pour être très précis là-dessus, que si les lecteurs avaient une idée de nos relations, on en parlera peut-être tout à l'heure, de l'état de nos relations régulières avec les importateurs et autres annonceurs, je pense que les gens auraient eu une autre vision de notre métier. C'est-à-dire qu'on se fâchait régulièrement avec tout le monde, hein, il faut le savoir. Donc voilà, donc c'était juste une petite précision.
Ouais, si j'en ai parlé, Pierre, c'est parce que dans les années 80, il y a justement, dans le courrier des lecteurs, il y avait eu beaucoup de polémiques là-dessus. Il y avait des lecteurs qui disaient comment ça se fait que Honda, c'est toujours eux qui gagnent les comparatifs.
Tout simplement, ça existe toujours. Hein, ça existe toujours, c'est-à-dire pourquoi BMW gagne toujours les comparatifs.
Ouais. Mais donc, il y avait un manque d'esprit critique. On sentait que l'esprit Motojournal se diluait un petit peu. Donc,
Je ne suis pas d'accord là-dessus.
Je comprends que vous n'êtes pas d'accord, mais nous, c'était notre ressenti.
Non, je ne suis absolument pas d'accord là-dessus. Tout simplement, je vais vous dire pourquoi. Il y a quelque chose que les gens ont du mal à comprendre. Il y a d'autres choses par rapport à ça qui existent encore aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens, quand on ne fait pas gagner leur propre moto ou la marque qu'ils aiment, ils ne comprennent pas. Deuxièmement, il y a des marques qui font des motos qui... Qu'on le veuille ou pas, ou quoi que ce soit, c'est une constatation qui gagne essentiellement les comparatifs et ainsi de suite. C'était valable pour Honda à certains moments. Toutes les marques ont gagné. Aujourd'hui, une BMW R1250 GS, elle gagne quasiment tous les comparatifs. Pourquoi ? Pas parce que BMW donne de l'argent aux journalistes, c'est simplement parce que c'est la meilleure moto, point à la ligne. Donc voilà, donc si, c'est toujours très difficile quand on est attaché à une marque. Le gars qui est attaché à Suzuki ou à Kawasaki va dire « vous faites toujours gagner les Honda ». Oui, mais jamais on se pose la question de savoir si c'est parce que les Honda, effectivement, n'avaient peut-être pas quelque chose en plus. Et donc voilà, donc je suis vraiment pas d'accord là-dessus, parce que je vous assure, je l'ai vécu de l'intérieur, et je peux vous assurer qu'un Motojournal, en tout cas, et c'est valable aussi à Moto Magazine aujourd'hui, il est absolument hors de question de quelque tolérance ou de quelque sorte que ce soit par rapport à telle ou telle marque. Nous faisons, à Motojournal, les gens faisaient leur métier, à Moto Magazine, les gens font leur métier, et point la ligne. C'est, vraiment, je vous assure. Hein, je suis désolé pour... mais c'est une évidence et je l'ai vécu. Et si d'ailleurs j'avais dû vivre les choses autrement, j'aurais quitté la presse moto. Voilà.
Bon, moi je vais te rejoindre dans tes idées. Vous êtes fâché en 99 avec les importateurs pour une couverture 3,40 compteurs. Là, il y a Bouza, ça te parle.
Exactement.
Et pendant un mois, vous avez été puni. C'est-à-dire que vous n'aviez plus de moto à prêter par les importateurs, parce que ça a fait le tour de France. Et pendant un mois, on vous a prêté des machines, des motards lambda, comme moi, vous ont prêté des motos pour les essais. Vous avez été puni pendant un mois d'essais moto pour avoir un 3,40 compteur sur la truc. Ça a fait le tour de France. Ça a été très loin, d'ailleurs.
Ça correspond, si tu veux, à ce que vous disiez tout à l'heure, effectivement, et à ce que je vous disais. Motojournal, les lecteurs ne le savaient pas parce qu'ils n'avaient pas à le savoir. Nous étions régulièrement fâchés avec les importateurs, mais vraiment, je vous assure, moi je me souviens, sans dévoiler quoi que ce soit plus avant, de m'être fait hurler dessus hurler physiquement dessus au moment de l'équivalence permis B 125 en 1996 par Jean-Claude Olivier, qui malheureusement a disparu depuis, parce qu'il estimait que dans Motojournal, on avait écrit des choses qui pouvaient aller à l'encontre. L'équivalence n'était pas encore obtenue, elle n'avait pas été encore validée par le gouvernement. Il estimait que ce qu'on avait écrit pouvait porter préjudice à l'obtention de l'équivalence du permis B 125, qui était très importante pour les marques. Donc toutes les marques, de tout temps, on a eu des problèmes. On a eu des problèmes réguliers parce qu'elles n'aimaient pas qu'on écrive que leur moto elle arrivait troisième du comparatif ou que ci ou que ça. Voilà. On a fait des enquêtes sur BMW avec la fiabilité BMW. Je peux vous assurer que dans ces cas-là, vous avez les oreilles qui chauffent et tout le reste et ainsi de suite. Ça n'empêche que le boulot a été fait et voilà. Et effectivement, sur cette histoire du 340 compteur, il y a plein d'anecdotes là-dessus. C'est-à-dire que c'est un essai qui a été réalisé en Espagne. En France, c'était limité à 100 chevaux. C'est une moto, d'ailleurs, qui vient de réapparaître là. Enfin, le nouveau modèle, entre guillemets, vient de réapparaître en 2021, la Yabusa. Et les 340 km/h ont été réalisés en Espagne avec Laurent Cochet. Donc, il y avait cette fameuse une avec le 340 écrit sur l'écran
sur la couverture.
Du casque. Et sur la couverture. Ouais. Et donc, effectivement, nous avons été, entre guillemets, boycottés par les constructeurs, la chambre syndicale, enfin, qui n'existait pas tout à fait à l'époque, mais enfin, ils se sont conjointement mis d'accord pour faire en sorte que Motojournal avait dépassé les bornes, estimait-il, et donc, on punissait Motojournal.
Incitation à la vitesse.
Effectivement, voilà, nous n'avions effectivement plus le droit à l'époque d'avoir de motos en parc presse, qu'on appelle le parc presse, qui sont les motos mises à la disposition des journaux pour faire les essais et les comparatifs. On a eu des motos qui ont été prêtées par des lecteurs, aussi des concessionnaires qui nous ont prêté des motos pour pallier le fait qu'on n'en avait plus en parc presse, parce qu'à l'époque c'était encore hebdomadaire, Motojournal, donc il fallait faire 4 numéros hein, pendant ce mois. Et ce qui est marrant pour l'anecdote en fait, hein, pour vous montrer quand même comment les choses sont pas toujours aussi simples, aussi blanches d'un côté et noires de l'autre, c'est que pendant qu'il y avait une attitude des importateurs qui était de dire « on va punir Motojournal », certains nous appelaient en disant « écoutez les gars, on peut pas faire autrement que vous punir, mais on est vraiment avec vous, d'accord ?» Donc voilà, il y avait aussi une espèce de « focuterie » entre guillemets, et pour terminer là-dessus, eh bien, faut pas se leurrer, hein. La Yabusa, elle a beaucoup bénéficié dans ses débuts commerciaux de cette une de Motojournal.
Ouais, puis là, d'accord, on est en pleine loi Guesso, donc on commence à rentrer, exactement, dans la répression vraiment excessive.
Dimanche dernier, donc, je présentais le sommaire de Moto Magazine, et justement, vous mettiez en avant Honda, Suzuki, et avec une liberté de ton et qui dit les choses. Mais effectivement, je pensais pas en préparant ce sujet sur la presse que tu apportes un éclairage quand même sur la façon de travailler à une époque où effectivement les rapports avec les constructeurs, ils n'étaient pas simples. Je propose vas-y. Tu veux dire quelque chose ?
Non, je disais que c'était effectivement pas simple. Et en plus, alors, à la décharge des constructeurs, effectivement, à cette époque-là, ils avaient une énorme pression mise par le gouvernement et les pouvoirs publics pour la sécurité routière. Donc, c'est pas simple d'exercer son métier de vendeur de motos dans ces conditions-là.
Christophe, je sais pas ce que c'est ça, mais c'est du
volume. Hein.
Hein, voilà. Bon, la presse papier, la presse moto, on est remonté jusqu'au dans les années 70, hein, même avant, un petit peu avant aussi. Hein. Beaucoup avant même, d'ailleurs.
Oui, Christophe. Puis, on apprend quand même des choses. Hein. Pierre Orluc, directeur de la rédaction de Mono Magazine, ancien de Moto Journal, qui nous apprend les dessous de choses que on n'a pas forcément connues. Alors, on disait un vent nouveau souffle. Les lecteurs veulent partager la passion. Les journalistes leur font partager leur passion, des textes rigolos. Et puis il y a un titre, Nico, Jobar Mag.
Ah oui, Jobar Mag, ça va arriver, oui. En fait, il y a eu dans les années 90-2000, il y a eu un tournant, un nouveau tournant. Hein. On a vu le tournant, l'apparition de notre journal. On avait le tournant un petit peu avec Motomag, et puis après l'après Giscard, et après l'après le pavé, et tout ça. Et puis, là, il y a encore un tournant dans les années 90. Ce qui se passe, c'est que ceux qui roulent en moto n'appartiennent plus forcément au monde motard. Ça devient un engin de loisir. Et on voit, par exemple, l'apparition de revues de kéké, comme par exemple Moto et Motard.
C'est quoi une revue de kéké
qui se veut déjantée et fait la part belle au stunt, au tuning et autres déviances malsaines. Non, je déconne. Il faut reconnaître qu'il n'y a pas une photo avec les deux roues par terre.
Ouais, mais Moto et Motard, faut quand même pas oublier que c'était beaucoup de pilotes qui participaient à cette revue. Et il y a quelques notoriétés qui passent actuellement sur une chaîne télévisée, je n'ai plus le nom. Mais c'était quand même une revue de moto, mais moto sportive.
Il n'y a pas une photo avec les deux roues par terre.
Non, ouais, c'était pas le style, mais le revendiquait en fait.
Donc, voilà, donc c'est ce que je dis.
C'était vraiment des motos sportives et des essais un peu comme en Angleterre.
Ce qui est sûr, c'est que le monde motard se dilue et se segmente. Les revues se spécialisent. Hein, donc on peut citer la belle aventure nordiste de Chronique Moto, hein, qui est un magazine mensuel de qualité qui traite de la moto classique, qui devient concurrent de Moto Légende et Moto Revue Classique. Il y a Moto Crampon, qui marche sur les plates-bandes de Moto Verte, qui était tranquille sur le tout-terrain. Il y a Café Racer, qui surfe sur les modes néo-rétro. Et Christophe Jobar Mag, hein, qui veut profiter du succès de la BD avec son ton provocateur. Et Michel Bidot, qui est rédacteur en chef, hein, sacré Michel Bidot. Et un ancien Moto Journal aussi, lui. Et après, on a Freeway, qui s'intéresse au custom et au Harley. Et puis Option Moto, qui était un petit peu la référence des magazines de tuning, hein, les magazines de tuning maintenant. Hein, il y avait des belles photos et c'était le rédacteur en chef, c'est Claude de la Chapelle, c'est un bon. Et en 2000, c'est le début timide d'Internet. Alors au début, Internet, ça fait pas peur parce que les images, elles mettent du temps à charger, les modèles pédalent. Et on a aussi, par exemple, l'arrivée de l'intégrale le mensuel du groupe La Rivière, hein, le groupe Motorevue, qui mérite d'être salué parce que c'était un mensuel de qualité, aussi bien sur la forme que sur le fond. Hein, c'était vraiment un renouveau et un.
C'était une filiale de Motorevue.
Oui, c'est ça. C'est ça. Le groupe La Rivière, Motorevue.
Motorevue.
Ouais. Et donc, et c'était un super magazine mensuel. Et au fur et à mesure de la démocratisation d'Internet, les ventes de magazines commencent à s'effondrer. Et par exemple, il y a des magazines qui essayent de rallier leurs marques. Hein. Il y a Desmo qui tente de récupérer l'éducatiste. Il y a Boxer Mag qui tente de rassembler les innombrables propriétaires de BMW. Et aujourd'hui, Motojournal a rejoint Motorevue. Hein, le groupe Motorevue, Motorevue Classique, Moto Verte, GP Racing, le site Motostation, hein, et au sein du même groupe, hein, des éditions La Rivière. Et MJ devient bimensuel au mieux, parce que ça a été erratique pendant un petit moment. Hein. Et bon, par habitude, moi, je l'achète. Hein, mais je reconnais que c'est un cercle vicieux. Il n'y a plus assez d'argent, plus assez de journalistes. Alors, on fait un peu trop de copier-coller d'Internet, avec toutes les erreurs qui vont avec, qui sont importées dans les copier-coller. Du contenu qui ressemble très fort dans MJ et dans MR. Et puis, reste des belles photos. Hein, mais le contenu dense et l'esprit s'envole un peu. Il y a les portails, les blogs, les réseaux sociaux qui ont démocratisé la publication et qui envahissent l'espace. C'est gratuit. Hein, donc, journalisme auto, c'était un métier qui nous a tant fait rêver, le plus beau métier du monde. Hein, tu as de la chance, Pierre. Et maintenant, c'est un petit peu foutu. Et ça nous a tant fait rêver que nous, on a la chance d'y goûter un peu, à notre niveau, depuis 30 ans, sur la radio.
Alors, on va laisser la parole à Pierre, parce qu'effectivement, on en a parlé tout à l'heure, l'indépendance de l'info, et là, c'est sous-tendu devant l'explication de notre ami Nico. Mais je voudrais juste rajouter qu'effectivement, les années 2000, ça a été aussi l'évolution de la mobilité. Sur Paris, et on a lu ton éditorial sur l'absurdistan du pont de Danières, mais c'est exactement ça, l'avènement des scooters à partir des années 2000, donc des nouveaux publics, aujourd'hui des gens qui roulent beaucoup moins, et donc l'information, l'indépendance de l'information, eh ben, elle a un prix, et c'est l'évolution. Motomagazine, rappelle-nous que Motomagazine a été la première édition de presse papier à avoir un site internet. Après,
oui, grosso modo,
tous les généralistes s'y sont mis.
Voilà, tous les généralistes s'y sont mis. Alors, effectivement, le problème n'est absolument pas simple. On pourrait discourir des heures de ça. Le problème n'est absolument pas simple. En fait, je pense que la presse moto, depuis un certain temps, depuis quasiment une vingtaine d'années, victime de plusieurs phénomènes qui sont malheureusement conjoints, concomitants. Donc effectivement, il y a eu la montée en puissance d'Internet. Hein. On sait que, grosso modo, le début d'Internet, les tout débuts, c'est la fin des années 90, début des années 2000, et après, ça monte progressivement en puissance jusqu'à ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc ça, c'est une évidence. Donc la presse moto a continué, bien évidemment, à travailler pendant ce moment-là et a commencé à baisser un peu la voilure. Dans le courant, ça a commencé à la fin des années 90 et effectivement a beaucoup souffert, a commencé à souffrir dans les années 2000 de moindres ventes, de ce genre de choses, parce qu'effectivement il y avait Internet et autres. Il n'y avait pas qu'Internet, on y reviendra peut-être tout à l'heure, il y a aussi des phénomènes qui sont très liés, alors là très concrètement, à la distribution des journaux en France. C'est excessivement important. Vous pouvez faire le meilleur produit du monde si vous ne le trouvez pas en kiosque. S'il n'y a pas suffisamment de kiosques, vous ne le trouverez pas, vous ne l'achèterez pas. Donc les journaux vendront moins d'exemplaires. Donc effectivement, la presse moto effectivement, a commencé à souffrir. Alors, beaucoup de titres ont disparu. Hein. On parlait tout à l'heure de titres qui n'ont fait qu'une apparition très brève, voire un numéro. Mais ça, c'était, passez-moi l'expression, des épiphénomènes. Il y a eu des titres qui sont restés beaucoup plus longtemps et qui ont disparu. Pourquoi ? Parce qu'économiquement, ce n'était plus viable. Et alors, il y a quelque chose qu'il faut dire aussi pour que les auditeurs se rendent bien compte des choses. C'est que j'en suis intimement persuadé, et on est beaucoup à être dans la presse moto à en être persuadé aussi. Il y a eu trop de titres à un moment donné sur le marché pour la capacité d'achat des gens. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas suffisamment de motards en France, grosso modo, pour répondre au nombre de titres qui existaient. Juste pour info, nous on s'était amusé à notre journal il y a quelques années, enfin il y a une quinzaine d'années, à compter le nombre de titres moto en permanence dans des kiosques moto. Quand je dis titres, ce sont des titres différents, mais aussi les hors-séries de certains journaux, ainsi de suite, il y avait en permanence plus de 50 titres en permanence, ce qui est incroyablement...
Il n'y a qu'en France d'ailleurs, hein, autant de
voilà, c'est incroyablement trop élevé par rapport à la population motarde, c'était même beaucoup plus que les titres voitures. Ouais. Alors que les automobilistes, tout le monde est automobiliste. Voilà, en France, il y a entre, les chiffres sont débattus, mais entre 3 et 6 millions d'adeptes du taureau motorisé, donc on va dire peut-être 3 millions et demi de motards, et il y avait 50 et quelques titres. Donc de toute façon, naturellement, il y avait trop de titres. Et avec l'avènement d'Internet et d'autres phénomènes, eh bien, un certain nombre de titres ont malheureusement disparu et ne sont restés, entre guillemets, que les titres les plus importants qui avaient des assises financières, humaines et ainsi de suite, qui leur permettaient, donc effectivement, Moto Revue, Moto Journal, Moto Magazine et ainsi de suite. Donc voilà, ces titres-là ont continué à perdurer, mais au fur et à mesure, beaucoup de titres ont disparu. Hein, donc c'est effectivement, c'est un phénomène qui est, à mon sens, à multiples entrées. Hein. Il y a eu la montée en puissance d'Internet et l'explosion d'Internet. Il y a eu effectivement ce trop-plein de titres, je pèse mes mots, je pense qu'il y avait trop de titres moto en kiosque en permanence pendant un bon moment. Tout le monde ne pouvait pas vivre avec en faisant un titre.
Oui,
voilà.
C'est évident. Oui.
Donc c'est une évidence. Et puis aussi, on y reviendra peut-être tout à l'heure, je sais qu'on en avait discuté pour préparer l'émission avec Christophe, les histoires aussi qui sont excessivement importantes pour que les auditeurs comprennent bien aussi les difficultés auxquelles sont liées, qui touchent la presse aujourd'hui, la presse et la presse moto en particulier, ce sont les difficultés de distribution des journaux.
Oui, je te propose d'en parler dans la séquence suivante, mais juste pour terminer effectivement sur les titres et la pluralité de titres, Philippe Guillaume, dont je parlais tout à l'heure, donc qui est maintenant à Moto Magazine, était à l'époque, il y a 2 ans, au repère des motards, et disait qu'aujourd'hui, il y avait plus de titres qu'auparavant. Alors là, j'avoue que ça m'a scotché, je n'ai pas été vérifié, mais est-ce que tu confirmes qu'aujourd'hui,
il y a pléthore de titres, effectivement, alors qu'on ne connaît pas obligatoirement, parce qu'il suffit d'aller faire un tour dans un kiosque aujourd'hui.
Mais je suis passé hier soir, j'ai compté au moins une bonne douzaine de titres.
Voilà. Il y en a moins qu'à la grande époque. Hein. Encore une fois, dans les années 80, quoi que ce soit, il y en a moins. Je vous ai
et
dit.
Puis il y a les hors-séries aussi.
Une cinquantaine. Voilà, les hors-séries tout compris. Mais c'était quand même. Vous imaginez dans un kiosque. Imaginez si chaque discipline ou que sais-je avait le même nombre de titres. Le kiosquier, il serait fou. Vous imaginez 50 titres de presse sur la chasse, 50 titres de presse sur les robots cuiseurs, 50 titres de presse sur les poupées gonflables.
Les supermarchés du papier.
Donc, en fait, effectivement, mais il y a toujours beaucoup de titres, alors qu'ils sont ce qu'on appelle, nous, dans notre métier, des titres de niche, hein, donc qui vont s'intéresser à quelque chose qui est excessivement pointu. On parlait tout à l'heure des magazines, par exemple Boxer, des choses comme ça, ou Detmo, mais qui vont par exemple s'intéresser à un type de moto particulier, voire à un type de moteur particulier. Donc ça, ce sont des titres de niche, donc qui vendent à très peu d'exemplaires, mais qui sont finalement, qui peuvent éventuellement être rentables parce qu'ils sont faits entre guillemets à l'économie. Ça ne veut pas dire que ce qui est fait n'est pas bien, c'est pas du ce que je veux dire. Simplement, ce sont des toutes petites équipes et ainsi de suite. Donc, ce sont des titres qui peuvent trouver leur chemin aussi parce qu'ils correspondent à une frange du public qui cherche quelque chose de particulier. Et voilà pourquoi il y a encore pas mal de titres aujourd'hui, mais il y en a quand même moins qu'à la grande époque entre guillemets des années 80-90.
Ok, je te propose de faire une pause. On reprendra sur l'indépendance de l'information, justement, et sur la façon dont les magazines sont obligés de s'adapter pour cela.
Oh, but ain't that America for you and me?
Christophe, retour sur la presse papier, donc on parle de moto, hein, presse papier moto, oui. les problèmes aussi de distribution.
Oui, alors tout à fait, on en était resté avec Pierre par rapport à la distribution des titres. Alors, on rappelait tout à l'heure que la presse papier, c'était des abonnements et des achats en kiosque. Et donc, à titre indicatif, pour qu'on comprenne bien quand même les enjeux, Moto Magazine, par exemple, qui avant 2015 tirait en abonnement 100 000, 190 à 100 000, aujourd'hui c'est 35 000, les ventes en kiosque c'était 40 000, aujourd'hui c'est 12 000, donc on comprend bien, et tout à l'heure on l'a expliqué, effectivement, ces capacités financières qui ont évidemment obligé les rédactions à réduire leur nombre de journalistes. D'ailleurs, au passage, un métier qui a disparu, c'est secrétaire de rédaction. Le secrétaire de rédaction relisait les papiers des correspondants. Aujourd'hui, les correspondants...
Ah, c'est pour ça qu'on voit autant de coquilles dans les revues.
Non, c'est un autre sujet. Non, les correspondants écrivent directement sur un serveur que les journalistes donc, qui constituent leur journal mettent en œuvre. Mais on pourra en parler après si vous voulez. Mais pour revenir donc à la distribution, je voudrais que, Pierre, tu nous expliques quand même que les gens comprennent bien. Il y avait 25 000 points de distribution... de diffuseurs de presse, dans les années 2015. En 2018, il devait être autour de 15 000. Alors aujourd'hui, je n'ai pas les données, mais clairement...
Ça a encore baissé. Hein.
Ça a encore baissé en 2020, effectivement.
Écoutez, pour que les gens comprennent bien, je vais prendre une image toute simple. En fait, la tendance qui était suivie par les kiosques, on va parler de kiosques pour simplifier, hein, parce que c'est pas que des kiosques. Et grosso modo la même que celle qu'ont vécu les stations-service en France. On voit bien qu'aujourd'hui, il n'y a plus de stations-service par rapport à autrefois. Hein. Aujourd'hui, la plupart des stations-service sont d'ailleurs regroupées dans des supermarchés et ainsi de suite. Je rappelle qu'il y a 30 ans, il y avait 40 000 stations-service en France. Aujourd'hui, il doit y en avoir 12 ou 13 000. D'accord ? Donc, simplement, c'est juste ce parallèle, je pense, qui peut parler aux gens aussi. C'est pareil pour les kiosques, les points de vente de la presse qui ont excessivement disparu. Alors, il y a plein d'explications à la disparition. Il y a effectivement le fait que les gens, bien évidemment, avec notamment Internet, finalement achètent moins de journaux, c'est une évidence. Il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué, mais qui est quand même très fort, y compris pour la presse moto, et je ne pense pas que vous me contredirez, c'est le prix des journaux en général en France, qui est très élevé. Hein. Un quotidien comme Le Monde aujourd'hui, qui est à 3 euros, c'est excessivement cher. Un quotidien à 3 euros, vous imaginez, si vous lisez tous les jours, vous mettez 100 euros par mois. La presse moto est chère, la presse moto en général, la presse papier en France est chère de toute façon. C'est un des vrais problèmes qui n'existe pas d'ailleurs dans certains autres pays, pour X raisons, c'est pas tout à fait pareil. En tout cas, pour revenir au prix de la distribution en elle-même, mécaniquement, quand vous avez moins de kiosques, moins de points de vente, vous vendez moins d'exemplaires. c'est une évidence, mais je préfère la rappeler. Voilà, donc beaucoup de kiosques ont fermé, hein. Je pense que les gens qui nous écoutent autour d'eux, ils ont dû voir des points presse fermés, des kiosques en plein milieu de ville, eh bien, qui ont fermé. Pourquoi ? Parce que, je ne vais pas rentrer dans les détails, ce serait trop compliqué là, mais la rémunération des kiosquiers notamment est excessivement faible. Un kiosquier, ça gagne quasiment pas d'argent. Hein, c'est quelqu'un qui aura des pâquerettes en niveau salaire, tout simplement parce que la rémunération du kiosquier lui-même par rapport aux journaux qu'il peut vendre, est très faible. Donc ça, c'est une des explications avec Internet et ainsi de suite.
Oui, alors, Pierre, excuse-moi de te couper. Oui, je voudrais juste, parce qu'effectivement, en préparant le sujet avec toi, j'avais repris un article et une interview qui avait été consacrée justement au sujet de Guy Deloche, hein, donc l'ancien directeur de la publication chez Moto Magazine, enfin aux éditions, pardon, de la FFMC. Et donc, on parlait justement du pourcentage. Alors, il faut rappeler quand même que quand le magazine sort des presses, quand il est mis en routage, donc en distribution, il y a des étapes. Hein, c'est-à-dire qu'avant d'arriver chez le diffuseur, donc ce que tu as appelé les kiosques, il y a le dépositaire régional. Et lui, voilà, il reçoit des coopératives. Alors parle-nous justement de cette hiérarchie.
Alors c'est une hiérarchie. Alors en fait, c'est quelque chose, en plus, qui a évolué. On va en parler tout de suite, après rapidement, parce que c'est très important pour ce qui se passe en ce moment pour la presse en France. Après la Seconde Guerre mondiale, a été mis en place un système de distribution qui partait d'un bon sentiment et qui était très intelligent, qui était grosso modo assurer à la distribution de la presse, quelle qu'elle soit, un accès partout au territoire, de façon, chacun payait rien de plus que l'autre, et ainsi de suite. Donc voilà, donc on pouvait diffuser, donc il y a eu un système de distribution de la presse qui s'est mis en place, qui était très efficace. Je rappelle juste pour l'anecdote qu'avant la Seconde Guerre mondiale, il y avait plusieurs centaines de journaux en France, quotidiens et autres, d'accord. Donc voilà, donc bien évidemment, la Seconde Guerre mondiale rebat les cartes, il y a plein de journaux qui ont disparu, il y a plein de journaux qui se sont créés, après la Seconde Guerre mondiale, et donc en même temps se crée ce principe de distribution qui se veut grosso modo juste et en assurant une distribution similaire partout en France et ainsi de suite. Donc on va vivre comme ça pendant des années, des décennies, et puis progressivement pour X raisons dans lesquelles je ne rentrerai pas parce que c'est beaucoup trop compliqué, eh bien finalement tout ça va un peu se déliter. Et il va y avoir de plus en plus de problèmes de distribution. Effectivement, donc les journaux, une fois qu'ils sont imprimés, partent dans des dépôts, par exemple, ou dans des coopératives, dans des dépôts qui vont les stocker et qui vont après les répertorier, des dépôts régionaux, et qui vont les répertorier par camion dans les différents kiosques, dans les différents points de vente. Donc ça, c'était un principe qui existe depuis toujours. C'est la logique, hein, simplement, comme n'importe quel dépôt pour un supermarché, il y a un dépôt central et qui alimente les supermarchés, c'est la même chose. Mais toute cette organisation a commencé à péricliter, entre guillemets, à coûter beaucoup trop cher, grosso modo depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, et on est arrivé malheureusement en 2020, l'année dernière, en plus du Covid, hein, qui n'a pas aidé aussi, on pourra en parler, la diffusion de la presse en général, eh bien on est arrivé à la faillite du principal opérateur dans le domaine de la distribution de la presse, qui était Presstalis, anciennement les Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne, ça s'appelait comme ça, qui distribuait partout en France 75% des journaux, quels qu'ils soient, qui étaient distribués en France. Un autre concurrent, qui sont les Messageries Lyonnaises de Presse, qui existent depuis beaucoup moins longtemps, distribuait 25%, les 25% restants. Presstalis a fait faillite l'année dernière, donc vous imaginez bien, faillite, plus Covid, ça veut dire fermeture de points de vente, ça veut dire beaucoup de problèmes pour distribuer depuis les entrepôts, depuis ces zones où on allait distribuer. Il y a eu des régions, juste pour faut le savoir, par exemple pour Moto Magazine, je ne parlerai que Moto Magazine, il y a des régions pendant sur certains numéros dans lesquels nous n'avons pas été présents. Il n'y avait plus de distribution à ces endroits-là. C'était directement lié à ça. Hein, donc, il faut être conscient. Forcément, quand vous avez une région qui disparaît tout d'un coup de votre catalogue, entre guillemets, de vente, eh bien, vous perdez mécaniquement X% de vente, 10, 15, 20%. Donc, c'est énorme. Par exemple, on a eu des gros soucis, et pas que nous d'ailleurs, dans le sud-est de la France, en Corse, où on n'était plus distribué. Ça, mais c'était très lié à la faillite, entre guillemets, de presse. De
presse, ce qui ressemble un petit peu à un monopole, là, finalement. Comment ça se passe? Tu supprimes le gros, qu'est-ce qui reste?
Alors aujourd'hui, donc il y a toujours cet acteur qui est à côté, qui a pris plus de poids parce que donc qui sont les MLP, les messageries lyonnaises de presse, qui avant étaient plus dévolues d'ailleurs au magazine. Hein, Presstalis était distribué quasiment l'essentiel des quotidiens, plus bien évidemment beaucoup de magazines, mais MLP était plutôt spécialisé dans les magazines. Et donc se crée en ce moment, il y a tout un travail qui est créé par le gouvernement, par les entreprises de presse et ainsi de suite, pour essayer de pallier la disparition, enfin en tout cas la faillite de Presstalis. Donc il y a des choses qui commencent à se mettre en place. MLP a récupéré, et par exemple Moto Magazine, nous sommes passés chez MLP alors qu'avant nous étions chez Presstalis, a récupéré un certain nombre de journaux, de magazines. Donc les choses commencent à revenir un peu à la normale. Pour Moto Magazine, pour que les gens qui nous écoutent soient bien conscients de la difficulté, la normale, grosso modo, de distribution en kiosque, c'est-à-dire on est distribué partout et ainsi de suite, et grosso modo depuis le dernier numéro. Hein. Il faut bien se rendre compte que quasiment toute l'année 2020 a été troublée par rapport à ça. Donc nous sommes à peu près partout dans les points de kiosque que nous voulons, dans lesquels nous voulons mettre des journaux. Nous y sommes depuis le dernier numéro, ce qui est celui qui est en kiosque.
D'accord, auparavant, oui, les mois avant. Les abonnements ont changé aussi au niveau de la date de distribution.
Voilà, donc il y a un certain nombre de choses.
À mi-mois, oui.
Voilà, et juste pour que les gens comprennent bien l'enjeu de tout ça, Moto Magazine... bien, comme beaucoup de types de presse, on a été dans l'histoire de Presstalis, on a perdu de l'argent, hein, parce qu'il y a des choses, quand une société fait faillite, c'est difficile de récupérer l'argent derrière. Et je lisais un numéro du Canard Enchaîné, je crois que c'est le dernier, qui est sorti en kiosque mercredi début janvier, qui disait simplement le Canard Enchaîné, juste ces histoires de faillite et tout, en est pour 3,5 millions d'euros ou 3,2 millions d'euros de sa poche perdu définitivement dans cette histoire. Donc vous imaginez les conséquences que ça peut avoir, un, sur la distribution, sur le volume de vente, mais deux, aussi sur la vie des équipes. Ça veut dire que voilà, y a des gens qui travaillent, les journalistes, des gens qui travaillent à la fabrication, et ainsi de suite. Donc tout est lié. Hein. Donc voilà, c'était simplement, je ne suis pas en train de dire que nous nous plaignons, mais il y a des choses qui touchent la presse papier, qui ne sont pas que les histoires d'Internet, de YouTube et tout, sur lesquelles on va sans doute revenir. Mais voilà, il y a aussi tous ces phénomènes-là qui nous pèsent dessus depuis longtemps et de façon très forte.
Tu parlais des abonnements tout à l'heure. Justement, la tarification postale, vous bénéficiez jusqu'à une certaine époque, il y a 5 ans, je crois, d'un tarif particulier qui a été supprimé carrément, non ?
Alors, c'est excessivement compliqué.
C'est répercuté sur les prix des abonnements, je suppose.
On essaye d'être modéré par rapport à ça, parce que c'est une évidence que si on commence à répercuter tous les coûts, on fait exploser tous les coûts. Un autre exemple, indépendamment des tarifs postaux, de la distribution, le prix du papier. Le prix du papier est en train d'exploser. Les papiers qui font les journaux, d'accord ? Ils viennent essentiellement des pays du Nord, la Finlande, la Norvège et ce genre de choses. C'est en train d'exploser. Autre chose par rapport à ça, on a de plus en plus de difficultés à trouver du papier pour faire des journaux. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, avec l'explosion d'Internet et des commandes en ligne et ainsi de suite, il est plus intéressant pour les fabricants de papier de faire des cartons. Donc, qui dit moins de papier, dit papier plus cher, et ainsi de suite. Donc, vous mettez tout bout à bout, le papier plus cher, effectivement, les tarifs postaux qui ont augmenté, et ainsi de suite, vous rendez compte que tout augmente. Et donc, c'est une difficulté supplémentaire pour les journaux, puisque nous sommes obligés, on ne peut pas répercuter tous ces coûts-là sur le consommateur qui ne comprendrait pas et ce serait trop cher pour lui.
Merci Pierre pour cet éclairage sur le mode de distribution du magazine que vous recevez dans votre boîte aux lettres. Peut-être que justement ça vous éclaire sur le sujet. Alors je voudrais revenir, j'avais une question là qui m'était posée hors antenne de Nicolas. Tout à l'heure on a parlé des journalistes, des grands noms en fait qui ont fait les journaux et des personnalités quand même. Et Nicolas, tu avais une question à poser à Pierre de ton époque de motojournal.
Oui, Pierre, je voulais parler de Miss Suzette, les aventures de Miss Suzette, Miss Kawa, tout Miss ce qu'on a
Kawette, Kawette et Suzette.
Ouais. Suzette, c'était une SV650, c'est ça ?
Tout à fait.
Ouais, puis on l'apercevait à Lezen quand tu venais régulièrement
Exactement.
Faire un tour.
Alors...
Et je voulais aussi parler de la guerre des chefs, Motorevue, Motojournal, vous appréciez pas tant que ça. Et je vais te raconter un truc, au Salon de Lyon, j'ai pris une photo, Motojournal, Motorevue, Groupe La Rivière. Et la vendeuse de journaux me dit « Pourquoi vous prenez en photo ?» Je dis « C'est marrant, parce qu'ils ont fait la guerre pendant des années. » Et elle me dit, c'est pas vrai. Je dis, si, c'est vrai, lisez les historiques, vous verrez bien que les... c'était juste une histoire de directeur, je pense, hein.
Oui, en fait, tout simplement, alors là, je vais rétablir des choses, ouais. Peut-être, ou aller à l'encontre de certaines croyances. Effectivement, Motojournal, on l'a dit tout à l'heure, est arrivé avec une fraîcheur, quelque chose qui n'existait pas dans la presse moto en France, avec Motorevue qui avait 50 ans ou 60 ans d'existence déjà auparavant, donc vous imaginez le gap, hein. Il y avait deux générations de plus de Motorevue que quand Motojournal est arrivé. Et en fait, effectivement, il y a eu tout de suite forcément une bataille très forte au niveau des directions, parce que là, il y avait des enjeux commerciaux, financiers et autres, hein, qui va être le premier, qui va prendre la place de l'autre, et ainsi de suite. En revanche, au niveau des rédactions en elles-mêmes, on a toujours été potes. Ouais, alors, il peut y avoir des inimitiés, mais ça, c'est lié à des personnes, mais bah, voilà. Mais on a toujours été potes, et d'ailleurs, je voudrais dire que, vous savez, quand on va faire des essais, que des marques invitent des journalistes à essayer, je ne sais pas, la nouvelle Triomphe Trident 660 qui vient de sortir, eh bien, ils invitent des journaux de partout dans le monde et des journaux partout en France. Eh bien, on est tous ensemble et ça se passe très bien. Et voilà, la passion de la moto, de toute façon, passe devant. Ça n'empêche pas parfois des petits frottements, des petites frictions. Mais non, il n'y avait pas de souci par rapport à ça. Voilà.
Et donc, aussi, un dernier truc, vous aviez des accords. Motojournal Le Mans, Motorevue Le Bol d'Or. C'est ça, non ?
Ouais, alors c'est pas tout à fait des accords. Tout simplement pourquoi ? C'est que, alors, Motojournal, effectivement, avait des accords avec Le Mans. Alors, ça, c'est des partenariats c'est des échanges de bons procédés, comme on peut dire, hein. Donc, Motojournal avait une connotation forte avec la compétition, une présence forte des Grands Prix, notamment, mais de l'endurance et ainsi de suite. Donc, il avait été estimé il y a très longtemps qu'on pouvait faire des partenariats avec les 24 Heures du Mans. Si les gens qui nous écoutent se souviennent de la grande époque, entre guillemets, pendant longtemps, Motojournal faisait réaliser le programme 200. Officiel. Voilà, mais réaliser aussi le programme officiel des 24 Heures du Mans, qui était intégré d'ailleurs dans Motojournal. Motorevue, c'est différent. Pourquoi ? Parce que Motorevue, les éditions La Rivière, en fait, ont aussi été organisateurs, notamment du Bol d'Or. Hein, donc voilà. Donc,
du
Supercross et ainsi de suite, d'un certain nombre de. Voilà. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Donc forcément, eux soutenaient, bien évidemment, par l'intermédiaire de Motorevue, le Bol d'Or, entre autres. C'est pas tout à fait la même chose. Là, c'est pas du partenariat, c'est simplement de la bonne gestion d'une entreprise qui, en même temps, soutient ce qu'elle fait par ailleurs. Donc voilà. Mais Motojournal avait un partenariat de proximité avec les 24 Heures du Mans, voilà, parce qu'on estimait que c'était effectivement quelque chose d'important pour les lecteurs et qui pouvait bénéficier aussi aux 24 Heures du Mans. Donc pendant des années, voire des décennies, on a été partenaire à l'époque quand j'y étais des 24 Heures du Mans. Aujourd'hui, oui. C'était un peu moins simple, je crois, mais bon, voilà.
Alors Pierre, je vois que l'heure tourne, on a encore nos deux invités donc collectionneurs que je voudrais faire parler. Je voudrais juste que tu conclues sur aujourd'hui, donc tu es directeur de la rédaction à Moto Magazine, presse papier, mais avec de nouveaux produits en fait que vous mettez en ligne sur Internet. Bon, l'application, ça fait déjà quelques temps qu'elle existe, mais parle-nous de la chaîne YouTube, des rendez-vous que vous fixez hebdomadaires aux internautes pour montrer justement comment vous vous adaptez. Bon, vous êtes évidemment une édition papier, mais avec maintenant 20 ans de pratique d'Internet. Donc comment voilà, vous évoluez les vidéos ?
Alors on évolue à mon sens comme il faut qu'on évolue, hein. J'enfonce une porte ouverte, mais pour moi c'est important, c'est-à-dire que bien évidemment on n'a pas trop évoqué le sujet, mais c'est important qu'on ne peut pas aujourd'hui être absent des nouveaux médias, ben, qui ne sont plus des nouveaux médias maintenant, hein, qui sont des médias en tant que tels, que peuvent être effectivement YouTube, que sont les sites internet et ainsi de suite. Donc Moto Magazine, depuis le premier numéro de cette année, a des changements dans la version papier, avec plus de pages et ainsi de suite. C'est doublé d'une offensive effectivement sur le net, sur notre chaîne YouTube, enfin sur toutes les possibilités qu'on a de faire vivre la marque Moto Magazine sur les réseaux sociaux. Donc effectivement, on a remis un peu au goût du jour l'émission Moto Mag, on a consacré 5 ou 6 émissions ce dernier mois et demi aux nouveautés 2021, voilà. Et on a créé, notamment sous l'impulsion de Philippe Guillaume que nous venons d'embaucher, l'apéro de Moto Mag tous les vendredis soirs. Soir, où là, il s'agit de parler d'un sujet moto, quel qu'il soit. Ça peut être une moto, ça peut être une réaction à une actualité, ça peut être autre chose. Eh bien, de parler avec un ton Moto Magazine, avec un engagement fort. Donc voilà. Donc, nous voulons perdurer, multiplier ce qu'est Moto Magazine dans la version papier, aussi sur les réseaux sociaux, pour que les gens qui nous regardent aussi sur les réseaux sociaux se disent, eh bien, ça, je le vois sur la chaîne YouTube Moto Magazine, je ne le vois nulle part ailleurs. Donc, on va vous réserver, on va avoir des surprises dans les mois qui vont venir, on va continuer sur cette lancée. Je vous assure que c'est un gros effort, parce que quand on est obligé en même temps, parallèlement, de faire un magazine papier de 132 pages, c'est un énorme travail, mais on est en train d'essayer de mettre en place des choses par rapport à ça. Donc, on va faire vivre ces chaînes, on va faire vivre notre page Facebook et ainsi de suite, de façon plus importante
dans les mois qui viennent. Oui, et puis garder ce qui fait l'esprit du magazine original, parce que je rappelle que Moto Magazine, c'est une SARL de presse, les éditions de la FFMC, 50% la Mutuelle des Motards, 50% la FFMC. Oui. Alors toi, tu viens, t'es arrivé il y a un an et demi, on le sait, on l'a dit tout à l'heure, tu viens de Moto Journal, mais dans l'équipe de rédaction, il y a encore des gens de la première heure. Bon, il y a Jean-Pierre Théodore, avec qui j'ai préparé les 40 ans de la FFMC, et donc que j'ai fait parler sur Moto Magazine. Il y a Frédéric, qui était mon correspondant, en tant que correspondant, justement, à la rédaction. Et puis, il y a Yannick. Donc, voilà,
il y a encore des... qui s'occupe de tous les produits, tout à fait.
Tout à fait, qui sont là de la première heure. Et donc, l'esprit...
Ils sont là quasiment de la première heure. Voilà. L'esprit est encore là, hein, c'est une évidence. Mais je pense qu'au-delà des personnes, l'esprit, c'est aussi ce que dégage un journal. C'est-à-dire que, quels que soient les gens qui vont être à l'intérieur, l'esprit va être là. Hein, donc je pense que au-delà des personnes qui le font, un magazine a son esprit propre entre guillemets, et charge aux personnes qui sont à l'intérieur, dont moi en l'occurrence aujourd'hui puisque je suis directeur de la rédaction, de faire perdurer cet esprit avec des gens différents. Et au passage, et sans vouloir pleurer, mais c'est vrai que Moto Magazine a souffert énormément il y a quelques années d'un plan social, hein, donc quand l'équipe est divisée par trois par exemple, vous vous rendez compte de ce que ça suppose, et humainement et sur le plan du travail. Eh bien, n'empêche que l'esprit continue, et puis à nous de le faire vivre, parce que le titre le mérite. C'est un titre magnifique qui a énormément de choses à faire, qui a fait beaucoup de choses et qui a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire devant lui. Voilà.
Bon, merci Pierre, ça sera le mot de la fin. Donc, Moto Magazine n'est pas mort, il perdure, mais il s'adapte. Voilà. Merci.
Exactement,
Pierre.
Exactement, ce sera le mot de la fin et le secret de la survie, entre guillemets. Mais ça va plutôt pas mal, hein. On a plein d'idées dans les cartons.
Alors, à tous les auditeurs, précipitez-vous chez votre kiosque. Ah, Guy veut intervenir.
Tu voulais quelque chose, dire, Guy?
Oui. Guy. Bonjour.
Il faut que tu parles dans le micro, Guy.
Oui, dans le micro. Guy Pilarzic, moi j'ai connu Moto Journal rue de la Tombissoire. Est-ce que tu étais déjà là-bas?
Non, moi je suis arrivé à Boulogne-Billancourt, rue d'Anjou. Voilà.
Ah, d'accord. Et à l'époque, je me rappelle, avec Guido Bétiol, il y avait toujours un lapin qui courait dans la rédaction.
Ah bon? Oui, il y a tellement d'histoires à raconter, il y a des histoires de dingue.
Il a été mangé.
Si je les racontais, je pense que la moitié des gens ne me croiraient pas.
Je me doute. Donc, moi j'étais pigiste cross à Moto Journal et correspondant régional à Moto Revue. Même Moto Revue m'avait demandé de changer mon nom parce que j'étais dans la liste des collaborateurs. Mais comme je m'appelais Guipi, GP, Grand Prix, je m'appelais dans Moto Journal Guipri. Voilà pour la petite histoire. Ouais, alors moi j'ai retrouvé, tu sais, pas mal de bouquins aussi parce que je suis l'ancêtre ici de Kikaku. On me nargue sans arrêt. J'ai retrouvé une revue de 1931. Je n'étais pas né encore. Hein. C'était le Motocycle Club de France. C'était France Moto de la Fédération Française de Moto qui a succédé à ça. Ensuite, Moto Revue. J'ai trouvé la Moto Revue de 1948. J'avais pas 20 ans, Christophe, à cette époque, hein, 48.
Je confirme.
Alors ensuite, pour parler de Moto Revue, ils ont sorti un bouquin, Scooter et Cyclomoto. C'était sorti par Moto Revue, ça a duré aussi peut-être une vingtaine d'années, parce que là, j'ai, J'ai les numéros de 1964. Et ensuite, le titre a changé, il s'appelait Cyclomoto. Ensuite, les motards, c'était une revue qui a sorti peut-être une fois ou deux. Et il fallait les chercher chez les motocistes à Paris, chez Jean Mury, par exemple. Donc, c'est une revue qui a disparu. Culbuteur, tout à l'heure, Nico en a parlé. Ensuite...
Il n'est pas notre doyen pour rien, hein. T'as vu, hein, il va aller chercher loin. Hein.
Ouais, Pierre, t'as pas vu la caisse, il a ramené. C'est une grosse caisse avec plein de revues à l'intérieur. Donc voilà. Encore pour.
J'ai pas vu les mains dans les poches, comme certains.
C'est magnifique.
Parce que là, je voilà. Prouve.
Non, mais
que j'avais...
Si t'en veux encore, Pierre, il y en a encore. Hein,
l'historique, il y a l'historique.
Il y a qu'à demander. Ouais. Bon.
Champion, c'était aussi. Le rédacteur, c'était Christian Lacombe. Ça a sorti que 100 numéros au centième, ça s'est arrêté. Mais ça, c'était prévu. Chronique Moto, on a parlé de Chronique Moto tout à l'heure. Mais avant Chronique Moto, il y avait Cromwell et Mégaphone. Mais c'était aussi imprimé dans la région. C'était Christian Gislin.
Ah, Gislin, oui. Hein, t'as connu ça, Pierre ? Non.
Non.
Cromwell et Mégaphone.
Ah, Joe Barmal.
Ouais, Guy est beaucoup plus vieux. Voilà.
Joe Barmal, on a parlé de ça de tout à l'heure. Voilà. Et alors, puis, moi, je suis un peu plus spécialisé, tu sais, dans le tout-terrain. Il y avait une revue qui s'appelait Motocross France, et c'était édité par le regretté Éric Breton. Ça a disparu. Ensuite, il y a eu une revue qui s'appelait Vintage, qui a paru qu'un seul et unique numéro, parce qu'on pouvait s'abonner avec une planche de stickers. Et j'en connais qui ont envoyé de l'argent et n'ont jamais reçu le numéro.
Un seul numéro, Pierre, c'est incroyable ça, hein ?
Oui, en effet. Ouais.
Et quand on regarde le magazine, c'est du beau papier.
En effet.
Très belle couverture et c'est marrant ça.
Maxime Otto, c'était Philippe Guillaume qui travaillait à l'époque à cette revue.
D'accord. Et après, il y avait un titre qui a été repris par Moto Magazine. Qui est pas resté.
Actuellement, je suis pigiste à la Ville de la Moto et pigiste à Motocross d'hier. Voilà.
Mais il n'est pas venu avec des numéros de la Ville de la Moto.
Non, parce qu'il se guise toujours.
Oui, j'en doute pas.
Il voulait absolument se faire connaître tout ce qu'il a connu.
On peut en rire, mais c'est vraiment des pans d'histoire. Je pense que c'est excessivement important. De souvenirs de tout ça parce que aujourd'hui avec Internet l'instantanéité d'avoir des choses qui durent comme ça
alors effectivement toujours, on peut dire là on a des traces on a sur la table ici il y a 40 000 revues hein, donc on a des traces hein, le papier ça reste
papier jauni
peut-être mais au moins c'est, et par contre Internet justement tout ça disparaît.
Très bien. Oui. Écoute, Pierre, merci en tout cas de ta participation. Nous, on se retrouve régulièrement puisque j'échange souvent avec la rédaction. Et donc, ton éclairage sur cette période plus que centenaire, la vie est mort malheureusement de certaines presses, mais de la presse de la moto. Voilà, à bientôt.
Très bien, merci Pierre. Et bon courage là-bas à faire de la moto à Paris, hein, parce que ça... Ça va pas aller de mieux en mieux, je pense.
Mais malheureusement, si vous avez lu le dernier numéro de Moto Magazine, vous l'avez vu, je pense que notamment pour les histoires de zones de la faible émission et les vignettes, toute la France va être concernée très bientôt. Voilà.
On en a parlé dimanche dernier.
Voilà. Très bien, merci.
Merci beaucoup.
Un bon dimanche et puis à bientôt dans le Nord, Pierre. Bah, tu viens souvent quand même, régulièrement quand même.
Je vais essayer de venir dans le Nord quand même.
Bien sûr, écoute.
Manger une frite.
On se mangera une frite fricadelle.
Au maroilles.
Ok.
Au revoir.
Allez, salut.
Merci. Merci, au revoir.
Walking on the fence line, set the bills bad. Pasture, you know, got a little plant you see, gonna let that sucker grow. Cops, they will know what I got behind my house. I make my money grow. Say no life you live. Don't get stuck in this place. All this left to do but die.
On termine, Christophe, cette émission sur la presse, les revues. Alors moi, je voudrais savoir, parce que des revues, ici, on est 5-6, on en a des tonnes à la cave, dans les greniers, et on les retrouve maintenant dans les bourses d'échange.
Alors,
est-ce que ça vaut quelque chose?
Alors effectivement,
est-ce que ça se vend?
Le confinement a fait ressortir, parce qu'on a eu du temps, Nico, Guy, Nicolas, vous m'aviez parlé de vos collections. Nicolas, t'as une chambre complète.
Ah, moi, j'ai énormément de papiers, des tonnes et des tonnes et des tonnes.
T'as acheté tout ce qui sortait, alors quand j'ai entendu qu'il y avait plus de 50 titres en kiosque...
Oh, mais encore aujourd'hui, j'en achète pas mal, on va dire 5 par semaine.
Ah oui, carrément.
C'est combien ton budget? Dis-nous un peu ton budget.
J'ai jamais compté.
C'est impressionnant quand même.
Oui, mais je vais vous expliquer un truc. Moi, je suis né, il n'y avait pas Internet.
Et toi, tu n'as toujours pas compris qu'il y avait Internet.
Non. et je vais vous expliquer un autre truc. C'est que moi, j'ai travaillé dans l'imprimerie pendant 25 ans. Ouais. Et on avait des anciens qui nous disaient, si tu veux avoir du boulot, achète des livres.
T'es shooté au papier,
voilà.
Toi.
Voilà. Donc, il y avait des vieux conducteurs qui nous disaient, si tu veux du boulot, achète des bouquins, fais vivre. Oui. Donc, c'est resté. D'accord. Et puis, comme j'aime la moto...
Après, c'est vrai ce que j'ai dit. Regarde, ça reste le papier, hein, puisqu'on a des vieux papiers. Moi, j'ai
le papier reste et témoigne du passé.
Et témoigne du passé, parce que sur Internet.
Internet, ça disparaît. Bah oui. Le site est fini, il n'y a plus rien.
Bah oui, il n'y a plus rien. Alors, après, c'est fini.
Justement, Nico, tu nous parles de ça. Tu nous as sorti d'Éthéré des motorevues des années 60 qui nous parlaient de la traversée de la France par
Georges Monneret.
Avec son fiston Philippe, qui avait 3 ans et demi à l'époque, avec un cyclo qui vit de 49 centimes. cm3.
Ouais,
il a mis 4 jours pour faire les 1500 km, mais c'est une épopée. Et donc, des aventures comme ça, aujourd'hui, je sais que sur Internet, j'avais vu un scooter électrique. Ils avaient cherché à traverser la France.
C'est pas le même
parcours. Ils avaient mis à peu près le même temps.
C'est vrai, hein,
sur Internet.
Ouais. Ils mettaient beaucoup de temps parce qu'ils rechargeaient.
Voilà.
Il fallait s'arrêter pour recharger.
Non, mais plus sérieusement, ouais, on va dire. Ouais. Pour revenir effectivement à ce moto-revue, c'était de la narration.
Oui, le papier, c'est un témoignage du passé, donc ça reste. Et donc, c'est vrai que c'est bien parce qu'on a, ce qu'on vient de dire là, toute l'émission, on a des témoignages de ce que, comment les motards vivaient, à quoi ils pensaient, quelles étaient leurs inquiétudes.
Ça fait un peu Neandertal.
C'est vrai, non, c'est vieux. En 1913, c'était entre tubes, on a eu les différentes guerres. C'est vrai que les pionniers des motos, la moto des années 70, c'était le renouveau, mais avant, les gens qui faisaient de la moto, c'était vraiment, ils en voulaient parce que ça tombait en panne, c'était compliqué, on trouvait pas facilement.
Et puis moi, je vais dire un truc. Quand vous y achetez une revue moto, le gars qui écrit l'article, c'est un journaliste. Tandis que sur Internet, tout le monde s'improvise journaliste.
Exactement.
Donc, vous avez
écrit tout et n'importe quoi. Et
ça finit toujours en querelle. À la fin, on peut mettre un avis et ça part en cacahuète. Et ça va même jusqu'à des injures. Donc, je préfère lire un beau bouquin de moto. Et voilà, créé par un professeur.
Ah oui, c'est ça le côté Internet, effectivement, et puis les réseaux sociaux, ça finit toujours par se devenir violent. Alors que quand on lit un bouquin, une revue...
Un journaliste, il y a une qualité d'écriture qu'on ne trouve pas sur Internet. Voilà. Hein,
alors, comment on peut faire vivre ces collections? Parce que tout à l'heure, on en parlait hors antenne. Aujourd'hui, enfin, ça vaut rien. Ça vaut pour ceux d'une génération qui ont connu ou ceux qui veulent découvrir. Mais... il faudrait scanner tout ça. Il faudrait qu'on crée une bibliothèque. Je ne sais pas. Mais finalement, il y a des musées de la moto. Est-ce qu'il y a des musées de la presse?
Il y a des gens qui ont scanné.
Il y en a qui l'ont fait.
Il y a un truc qui s'appelle le grenier
Il y a un
Paul.
Site internet qui a scanné tous les motorevues.
Tous ceux qui l'avaient. Il ne les a pas tous. Mais il y en a beaucoup.
Parce que c'est ça la voie.
Le grenier de Paul.
Oui, c'est ça. Et il a scanné tous les motorevues, y compris le premier.
Oui, voilà. Et donc, ça, c'est vrai que c'est un témoignage du passé, c'est important.
Voilà.
Et la collection, elle a une valeur comme ça. Après, ceux qui font de l'argent sur des trucs comme ça, c'est un peu...
Non, il y a des belles photos, ça fait rêver. Là, on en a un sous les yeux.
Voilà. Les publicités de l'époque, Amish. C'est incroyable.
Je feuillette, j'ai ramené un autre journal de 2015. Regardez un petit peu.
En vent-vent.
C'est
envie de rouler. En vent-vent Suzuki.
C'est marrant la pub.
C'est rigolo comme tout. Et il y a la pub pour la bière Kronenbourg.
Regardez, j'ai même un...
RTL Hit Parade.
Le Hit Parade RTL.
Ouais, voilà.
Dans Moto Journal de 2015. C'était le mois de mars.
Le studio chauffe.
Le tabac, les publicités pour le tabac.
Et maintenant, ça s'appelait André Torrent.
Ouais, c'est plus
le Torrent.
La publicité pour le tabac. Impensable
que quelqu'un on va faire des animations de salon
alors,
avec
la meilleure, je vais vous dire, regardez, dernière page, la dernière page,
la grande évasion, le frisson et la Kronenbourg. Et on voit un motard en train de se boire sa petite.
C'est dommage qu'il n'y a pas, c'est à la radio, hein, bien sûr.
On ferait ça maintenant.
C'est le goulag, tout de suite.
Bon, voilà, on a tout dit là, Christophe, on peut terminer l'émission.
En tout cas, un grand merci à Nicolas, à Nico, à Guy. À toi aussi, la Miche, parce que tu nous as sorti des bons éléments. Là. Et à Pierre Orluc, et puis Laurent, évidemment.
C'est
quand même grâce à lui qu'on peut parler
dans le micro. Incroyable, on a fait ça.
Je vous rappelle qu'on n'est pas en studio.
On est en conditions précaires.
On a fait ça.
On a parlé beaucoup.
Comme dans les années 70, on l'a fait.
Oui, c'est exactement ça. C'est excellent.
À la Caroline.
Radio
Caroline.
Voilà, l'émission se termine. Passez un bon dimanche, et puis une bonne semaine, et puis on se retrouve dimanche prochain. Même heure, même endroit, sur les ondes de Radio Campus Lille 106,6 ou www.campuslille.com.
Et on parlera des 40 ans de la Fédé.
Ah, les 40 balais de la Fédé. Voilà. Oh, bah dis donc, on en a du sujet.
On parlera encore de la presse.
Oui.
Pour le Moto Magazine.
Au revoir.
Bon dimanche à tous.